BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Antoine Larigaudry.
Et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de ce BFM Bourse estival. Encore une fois, beaucoup de choses qui se sont passées aujourd'hui du côté de la Bourse de Paris, du côté de Wall Street aussi, hein, qui était en hausse vraiment prononcée tout à l'heure et puis qui retombe. Le soufflet retombe vraiment, hein, du côté des indices américains avec moins 0,19 au compteur pour le Nasdaq. Plus 0,06% pour le Dow Jones, le S&P 500, moins 0,17%. Rumeur d'intervention d'une banque centrale sur le yen. Ouais, mais pas celle que vous croyez. C'est pas la Banque du Japon qui serait à l'œuvre. Ce serait peut-être bien du côté de l'Amérique qui aurait des interventions inverses. Alors ça, c'est du jamais vu. Et ça a tendance à nous remettre en tête que c'est souvent du côté du marché japonais qui a des hoquets pendant les vacances et que ça provoque des remous sur l'ensemble des places boursières. Le CAC 40, lui, en tout cas, s'achemine vers une belle fin de semaine. Globalement, on gagne 2% sur l'ensemble de la semaine écoulée. On gagne 0,37% à quelques minutes du fixing. 8517 points contre-performance de la tech avec un Euronext Tech Leaders qui recule de 0,26%. L'Eurostoxx 50, plus 0,17, plus 0,07 pour le DAX à Francfort, plus 0,3% pour l'IBEX à Madrid. Globalement, fin de semaine plutôt calme sur les marchés européens qui digèrent la grande vague de résultats. Ça, on y reviendra, bien sûr. Il y a encore des performances trimestrielles qui sont parues aujourd'hui, qui ont animé la cote avec de très belles progressions. Tiens, notez Saint-Gobain, dont on va reparler largement. Il gagne quasiment 7% à Saint-Gobain, leader du CAC 40. Et avec ce taux de progression, c'est pas souvent. 81,32€ pour le site. Il y a Euronext, un des champions du jour aussi, qui gagne 6% à 158,40€. Il y a la Galaxie Vivendi qui inquiète, hein, tout de même. Vivendi, moins 18,7% à 1,61€. Universal Music Group en forte baisse du côté de la bourse d'Amsterdam. On verra dans cette émission si la Galaxie Vivendi est encore un terrain investissable pour les investisseurs boursiers. Mais pour l'instant, on va parler évidemment de la tendance à Paris qui sera dictée dans les prochaines semaines, n'en pas douter, par les taux. On est à nouveau à 4% sur le 10 ans français, mesdames, messieurs. 4% exactement, 3,22 pour le 10 ans allemand. Et alors, ça déborde largement du côté du 10 ans américain, 4,74. Et ça va rester une des clés, bien sûr. En plateau avec nous, pour en parler, Maxime Lejuez de GST Gestion. Bonjour, merci d'être avec nous. Évidemment, Julien Marion de BFM Business.
Bonjour Antoine, bonjour Maxime.
Merci d'être avec nous, ainsi qu'Andrea Tueni de Saxo Bank, qui est par téléphone. Andrea, on va peut-être commencer par vous. Une séance qui se termine quand même bien du côté de Wall Street, de Paris. Le CAC 40, plus 0,37% là, à quelques minutes du fixing. On est sur un gain hebdomadaire d'un petit peu plus de 2%. Globalement, on passe bien l'écueil des résultats trimestriels avec quelques bonnes surprises à la clé. Et ben voilà, à 150 points des derniers records absolus. Est-ce que la configuration du CAC 40 est un petit peu moins fragile, on le déplorait, que ces dernières semaines? Est-ce que la dynamique haussière s'est vraiment installée?
En tout cas, l'accélération qu'on a vue, et quand, si on avait dû analyser le CAC à la mi-journée, ça aurait été encore plus intéressant et forcément encore plus positif. On a réussi à accélérer, se rapprocher des 8600 points. On n'a pas réussi encore à battre un record, contrairement à d'autres indices. Mais en tout cas, on a été capable d'accélérer de manière assez intéressante sur le CAC. Alors, ça s'est essoufflé un petit peu à partir de la mi-journée. Donc, ça vient noircir un petit peu le tableau. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, cette semaine est quand même largement positive. Et on s'éloigne encore une fois de certains niveaux qui auraient pu constituer soit des niveaux d'alerte, ou on s'éloigne surtout de niveaux de support. On se parlait un peu plus tôt cette semaine et on évoquait des niveaux techniques sur le CAC. Et parmi ces niveaux techniques, on citait une résistance à 8507 points, une autre à 8561 points. Et on a réussi, en tout cas sur la séance d'aujourd'hui, à aller tester ces niveaux de résistance, voire à certains moments à s'installer au-dessus de ces niveaux de résistance. Donc ça, c'est quand même plutôt assez intéressant. Par contre, là, c'est vrai que quand on analyse un peu la clôture sur le CAC, on risque de clôturer en dessous, autour des 8500 points. Donc autour peut-être de ces 8507 points qui étaient une ancienne, du coup, résistance et qui devient peut-être aujourd'hui un niveau de support. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et après, bon, les niveaux de support qu'on avait à l'époque restent à peu près les mêmes. 8350, 8300, 8235, 8180 comme première grosse zone d'alerte. Donc c'est aussi rassurant de voir qu'on s'éloigne de ces zones d'alerte, Et c'est ça, encore une fois, le point positif qu'on peut retenir sur la semaine, sur le CAC. Alors, de là à dire qu'on a une tendance, une dynamique haussière qui s'est installée, c'est peut-être un peu tôt. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une dynamique de fond qui est évidemment haussière. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui le carburant pour aller battre des niveaux records pour aller typiquement chercher les 8650 et un peu au-delà. À voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les catalyseurs qui ont justifié aujourd'hui la hausse, à savoir un rebond du secteur technologique et des résultats d'entreprises qui ont été globalement assez solides, et notamment, vous l'avez cité, Saint-Gobain qui a bondi presque 8%. Donc c'est vrai que ces éléments-là ont évidemment aidé à tirer la cote vers le haut, et c'est des éléments qui, s'ils venaient à se confirmer dans les semaines à venir avec d'autres résultats, pourraient continuer d'aider le CAC à aller chercher des plus hauts, ou en tout cas des niveaux supérieurs.
Allez, fixing à l'instant pour le CAC 40, plus 0,28% à 8509 points. On conserve les 8500 points. Petit coup d'œil sur les volumes d'échanges qui n'étaient pas très très importants. J'ai 2,4 milliards là au compteur, ce qui est quand même un volume relativement faible. On reste quand même sur la saison estivale, donc a priori pas grand chose à noter. Moins 0,2% pour l'Euronext Tech Leaders, l'Eurostox 50, plus 0,21, plus 0,07 pour le DAX à Francfort et plus 0,26 pour l'IBEX à Madrid. Plus forte hausse du CAC 40 Saint-Gobain, plus 6,9%, 81,28€, suivi de près par Euronext, plus 6,16 à 158,60€. À la baisse, Veolia, moins 3,72 à 34,47 et Orange, moins 2,96 à 16,57€. Plus forte hausse du SBF 120, c'est Worldline qui s'envole de 22% à 12,19€. Mais on a des performances à deux chiffres très intéressantes aussi du côté de Viridien, du côté de Téléperformance. Et puis à noter, Vivendi, moins 19,5%, 1,60€. On en reparlera dans cette émission. Ipsos, moins 14,2, 35,74€. Ouais, là, vraiment, le marché est sans pitié avec les quelques déceptions auxquelles on a pu assister aujourd'hui. Je vous le disais, les taux d'intérêt se tendent, 4% pour le 10 ans français. C'est quand même un chiffre qui fâche pour terminer la semaine. Maxime Lejuez, on peut peut-être commencer par là, du côté du monétaire, du côté du contexte macroéconomique et du côté taux. Ça va rester le facteur X pendant les semaines et les mois qui nous attendent, a priori.
Complètement. Et je pense que la dernière intervention de Kevin Warsh va dans ce sens, puisque finalement, le fait qu'il n'ait pas relevé les taux soir, il a un petit peu inquiété les investisseurs.
Puis surtout, ses commentaires à base de « bon, on va laisser le marché obligataire pricer ce qu'il veut, et puis on verra ».
Ouais. C'est un jeu dangereux.
On a parlé un peu de dilettantisme cette semaine quand même.
Complètement. Ouais. C'est un jeu dangereux, et en fait, c'est la crédibilité de la Fed qui est en jeu.
Oui.
Et il y a une petite musique qui commence à se faire entendre, c'est qu'on a l'impression que dans le discours, dans l'attitude, il est peut-être un petit peu faucon, mais en fait, dans les faits, ouais, il ne veut pas toucher au taux.
Non.
Et on pense que justement, ce côté où on disait qu'il allait être indépendant vis-à-vis de Donald Trump, qui espère justement, on le sait depuis de longs mois, des taux beaucoup plus bas, ça, eh bien, c'est quelque chose qui commence à inquiéter. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans les taux. Finalement, les taux à 2 ans aux États-Unis, ils ont légèrement baissé, donc ça montre que les investisseurs peut-être anticipent un petit peu moins de hausse de taux. Par contre,
sur les taux longs et très longs,
ça s'est un peu tendu. Et je pense que justement, les investisseurs, ils pensent qu'on risque d'avoir une inflation durablement élevée, et ils demandent d'être mieux rémunérés justement pour se couvrir contre ça. Et donc on verra après, il y aura le discours à Jackson Hole fin août, qui est souvent un événement quand même important. On sait que quand le président de la Fed prend la parole, parfois c'est associé à des forts mouvements sur les marchés actions, sur les taux, sur les anticipations des baisses ou hausses de taux par le marché. Donc on va voir, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va forcément alimenter tout l'été les performances et la volatilité des marchés.
Oui, sans doute du mouvement à prévoir. Julien Marion, votre impression? Alors, malgré tout ça, on a un CAC 40 qui reste quand même assez proche de ses derniers records absolus. On a une moisson de résultats où on a eu quelques bonnes surprises, quelques très bonnes surprises même, quelques déceptions marquantes. Au milieu de tout ça, le marché, lui, continue d'avancer petitement, mais d'avancer tranquillement du côté de Paris.
Je ne sais pas trop quoi penser, parce que la vérité, c'est que Maxime a assez bien résumé la situation. Vous avez Jackson Hole à la fin du mois. Vous avez d'ailleurs Nvidia à peu près en même temps. L'IA et sur les taux, qui sont les deux grands sujets du marché dans la globalité, on va attendre. La vérité, c'est que je pense que le marché n'est pas dupe. Il sait que Kevin Warsh, il ne décide pas tout seul la politique monétaire. Lors du dernier statu quo, donc la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, non, c'était cette semaine. Excusez-moi. Le temps passe tellement vite quand on.
C'était il y a deux jours.
Enfin, on a parlé quand même d'un statu quo au quiche, parce qu'il y a quand même trois dissidents. Dans le Conseil politique monétaire. Ça veut dire qu'en fait, ça se rapproche, qu'on veuille ou non. Donc, si c'est pas pour juillet, ce sera pour septembre, octobre. La hausse de taux, elle arrivera dans les prochains mois. Neil Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, il a parlé aujourd'hui. Il a parlé d'inflation de transition, tout en disant qu'il fallait agir et que les banquiers centraux, ils avaient une obligation lorsqu'il y a des tensions sur l'offre. Autrement dit, il s'est clairement prononcé en faveur d'une hausse de taux.
Oui, totalement.
Puis lui, il ne peut pas gérer ça lui tout seul. Il a un conseil des gouverneurs. C'est de politique monétaire.
Neil Kashkari, souvent, il dit tout haut ce que les gouverneurs pensent tout bas. Hein. Il a tendance à exagérer un petit peu dans la formulation. Enfin, globalement, il donne la direction et la direction est claire.
Il n'est pas comme James Bullard. Vous vous rappelez de Bullard, le hawkish de chez hawkish. Ouais. Il intervenait le vendredi, disait un truc, le marché tombait alors qu'en fait.
On n'en est pas là, mais effectivement, la direction.
L'intervention de Kashkari aujourd'hui, elle a marqué. Tout ça pour dire que je pense que le marché, il va gentiment pricer une hausse des taux au fur et à mesure. Vous avez raison, Maxime, il va attendre Jackson Hole d'en savoir plus. Et d'ici là, le mois d'août, c'est peut-être vous qui avez raison, Antoine, le Japon. Sinon, on aura quelques résultats d'entreprise encore déterminants, notamment la semaine prochaine, mais j'y reviendrai après.
Effectivement, ouais, le Japon, et on le rappelle, hein, c'est rumeur d'intervention côté américain, hein, vis-à-vis du yen, pas côté japonais, côté américain, justement pour réduire un certain nombre de déséquilibres en ce moment entre le yen et le dollar, à noter 4,74 hein, maintenant pour le 10 ans américain. Effectivement, ça s'est bien envolé du côté des 30 ans. Et on va regarder ce que ça donne du côté des taux hypothécaires aussi, parce que là, c'est un rouage du mécanisme qui est indispensable. On va revenir sur nos valeurs du jour du côté de la Bourse de Paris. On va parler de la superstar quand même. C'est pas souvent que Saint-Gobain gagne 7% en clôture. Enfin, 6,9 pour être exact. Hein, 81,28€. Et puis, on l'a dit, alors souvent, c'est vrai que ça arrive en volée. Il y a les Bouygues, Vinci, etc. Et on le disait hier, c'est peut-être le retour des valeurs ennuyeuses. Mais voilà, c'est un gros compartiment de la cote à Paris. Ça fait du bien, et Saint-Gobain là franchement se distingue, là encore une fois parmi les incertitudes du moment, ça reste une valeur sûre du côté de la côte française. Maxime,
c'est vrai, et pourtant à première vue la publication, eh bien elle n'est pas sensationnelle.
Ouais, c'était pas
fou, fou. Bah, j'ai trouvé que finalement le chiffre d'affaires baisse, le résultat opérationnel baisse, et donc c'est au niveau du premier semestre. Donc c'est expliqué par des conditions météorologiques très défavorables, en effet, au début de l'année. Le point positif, et c'est ça qui est salué par le marché, c'est qu'en effet, on a une amélioration au second semestre. On a une reprise de la croissance. On a aussi une augmentation des volumes, ce qui est très important pour une valeur cyclique comme Saint-Gobain. On a Saint-Gobain qui marche très très bien en Europe du Nord, en Allemagne, qui continue à surperformer en France. Il y a l'Asie qui a l'Asie-Pacifique qui est aussi un très gros moteur, avec que Saint-Gobain, depuis maintenant plusieurs publications, explique qu'il en fait une zone stratégique. Il a ouvert des chaînes d'assemblage en Inde. Il y a le Vietnam aussi. Donc il poursuit son développement dans cette zone-là. Et donc, cette diversification géographique lui permet d'être peut-être un peu moins dépendant du marché européen et du marché nord-américain. Et puis, il y a un nouveau thème de croissance quand même pour Saint-Gobain aussi, c'est les data centers qui participent. L'equity story du moment, c'est un peu le mot magique. Et c'est vrai que quand on fait un data center, on a besoin de matériaux d'isolation, on a besoin de vitrages spécifiques pour justement respecter une certaine isolation thermique.
Ouais.
Et donc, on sait que Saint-Gobain est très implanté sur ce secteur. Ils sont déjà intégrés dans à peu près 1000 projets dans 32 pays dans le monde. Donc, c'est très porteur pour le titre, c'est salué en bourse, et c'est vrai que c'est un peu le retour des valeurs ennuyeuses, vous l'avez dit, et dans un souci de diversification de portefeuille, on se rend compte que c'est des valeurs dont on parle peut-être moins souvent, mais qui sont intéressantes à avoir. Ça donne un petit peu de rendement aussi en plus. Donc
Oui, c'est toujours un rendement intéressant. Et puis, ça participe justement à ce phénomène de rotation à la fois géographique et sectorielle qui profite à nos valeurs. Vous l'avez vu comment, la publication de Saint-Gobain? Vous aviez l'air d'avoir...
Jeudi soir, quand on l'a regardé, on a quand même trouvé que c'était assez impressionnant avec Sabrina. Parce que ce qu'il faut voir en fait avec Saint-Gobain, ce que vous évoquez en fait, les chiffres en valeur absolue, dans un premier temps, puis à Maxime, il faut voir qu'il y avait un excès de pessimisme, en fait, avant la publication. Vous évoquez, les volumes, ils progressent de quasiment 2%, on les attendait en baisse. Ou stable, d'ailleurs. C'est vraiment tout proche de zéro. Le pricing reste dynamique. couplé à ça, c'est vraiment il faut regarder vraiment l'activité au deuxième trimestre. C'est ça qui joue, sachant que la marge, bah aussi les attentes. Hein. Il y a à peu près tout qui va bien. En Europe, c'est la plus forte croissance qu'ils ont depuis 2022. Hein.
Oui.
Donc il y a quand même. Et je veux dire, Saint-Gobain, c'est quand même une valeur d'inflexion. Ça fait un moment qu'on attend une reprise en fait des volumes et là et un peu du bâtiment en Europe. On voit qu'en fait le groupe il est en train de surprendre. Et donc en fait, pourquoi est-ce que ça prend 6%? C'est parce que déjà on était pessimiste et parce que le point d'inflexion qu'on attend. Mmh. On commence à le voir, il se précise, il est en train de repartir. C'est comme dans les semi-conducteurs, on achète ouais. le point bas pour repartir.
Andrea Tueni, Saxo Bank, la configuration de Saint-Gobain, qu'est-ce qu'on lit sur la configuration technique de cette bonne vieille dame du CAC 40 quand même, faut bien le dire. Qu'est-ce que nous disent les signaux là en ce moment?
Quand on regarde, c'est vrai que techniquement on a une configuration qui est plutôt saine et assez constructive, on a un rebond solide. Et une structure haussière qui est quand même globalement bien installée. On avait touché un point bas le 20 mars autour des 68, légèrement au-dessus, et on a rebondi depuis de plus de 20%. Donc aujourd'hui, si on regarde, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, un court, moyen, long terme. Donc c'est typiquement un schéma qui est plutôt haussier. On a un vrai niveau qui va être important. C'est un niveau d'ailleurs qu'on a franchi avec le mouvement qu'on a eu aujourd'hui sur le titre. C'est la moyenne mobile 200 jours. Elle est située autour des 80, 30, 35. Donc on a reconquis, on va dire, ce niveau, on est repassé au-dessus de cette moyenne mobile de 100 jours, ça va être un vrai niveau pivot à partir de là. Tant qu'on reste au-dessus des 80, on a un biais haussier qui va se maintenir et qui va être assez intact. Un retour en dessous, pour le coup, on verrait un signal, en tout cas à court terme, un peu plus négatif. Mais on trouve quand même qu'il y a un mouvement qui est assez puissant à la hausse. On a des indicateurs de momentum qui montrent qu'on s'approche d'une zone où le risque de consolidation ou de prise de bénéfice peut légèrement augmenter. Même si on regarde le marché des options, c'est assez intéressant. On voit qu'on a un graphique qui est haussier, mais on a des investisseurs qui restent assez couverts et assez prudents sur le marché des options. Donc, on n'a pas non plus un optimisme qui est totalement débridé sur le titre. Et les niveaux qui sont à surveiller sur les bases sur lesquelles on est aujourd'hui en résistance, on a 83, 84 euros, 87, 90 comme niveau suivant. Et puis, le tout dernier niveau qui serait important, c'est les 100. Et puis à la baisse, le niveau crucial, on l'a dit, hein, c'est la moyenne mobile, donc autour des 80, et puis au-delà, c'est 77 et 76 qui sont les gros niveaux de support à surveiller. Et la première grosse alerte, elle se situe au niveau des points bas du mois de mars à 68.
Oui, et puis je reviens juste sur le CAC 40. Je vous disais 2 milliards et demi, on n'avait pas les volumes définitifs en fait. Non, 5 milliards 3. 5 milliards 3. Ben oui, ça avait pas plippé sur le fixing, mais 5 milliards 3. Donc ouais, effectivement, bon gros volume. Logique avec les résultats, c'était un peu étonnant, 2 milliards et demi. Donc 5 milliards 3 pour le CAC 40, journée très active. On va passer à Vivendi. Vivendi, on va se porter au chevet du malade, moins 19,5%, 1,60€. Maxime Juez, il y a Universal Music Group qui pèse nécessairement, qui a perdu quasiment la même chose hein, du côté de la bourse d'Amsterdam. Juste une question bête, simple et directe. Est-ce que on peut investir dans Vivendi à l'heure actuelle, dans la galaxie Vivendi? Ok.
Non, c'est une question qui est compliquée parce que à la fois il reste des actifs en soi. Universal Music Group. Bon, là, la publication elle est un petit peu décevante, mais ouais. Ça reste quand même un joyau au niveau des médias en Europe, et c'est reconnu mondialement. Donc, moi, je ne suis pas si inquiet que ça pour Universal Music Group sur les prochaines publications et les prochains trimestres. Ce n'est pas ça qui m'inquiète le plus. Après, Vivendi, ce qui est compliqué, c'est que, et c'est parfois ce qui pénalise un petit peu la valeur, c'est que dans la galaxie Bolloré, c'est parfois pas très simple de lire concrètement qui détient quoi.
Sans blague.
Oui. Ok. Et je pense que ça pénalise complètement ouais. le titre. Et en fait, aujourd'hui dans Vivendi, j'ai regardé. Donc il y a du Gameloft qui est l'éditeur de jeux vidéo qu'ils ont en direct. Ils ont une participation dans Banijay qui doit représenter 16%. Mmh. Alors qui est pas mal, qui a fait des résultats plutôt corrects. Banijay, ils ont notamment Betclic, c'est à la moitié en oui. production. Et puis c'est des paris sportifs. Ils oui. ont fait l'acquisition de Tipico. D'ailleurs, Betclic au passage qui a fait plutôt de bons résultats au niveau des paris sportifs avec la Coupe du Monde, ce qui est moins le cas des FDJ, donc ils ont plutôt été bons là-dessus.
Ah là, c'est une galaxie qui avait part dans une autre galaxie qui s'appelle la galaxie Courbit. Hein, donc,
c'est vrai. Ouais. Mais bon, après, à ce prix-là, avec une décote de 50% sur les actifs, c'est compliqué de dire qu'on n'est pas à l'achat, mais nous, si on croit au redressement et à la décote, pourquoi pas.
Julien, c'est vrai que c'est un itinéraire très particulier, Vivendi.
Alors, je vais simplifier la question. Je vais dire pourquoi investir dans Vivendi. Et moi, honnêtement, je ne vois pas. Parce que le principal actif, de Vivendi est de très loin. C'est donc les 10% qu'ils ont dans Universal Music Group, qui d'ailleurs a perdu 25% aujourd'hui.
Oui, 24,5%.
C'est gigantesque. Donc, si vous jugez qu'il y a un point d'entrée, et que vous, ok, pourquoi vous n'investissez pas directement dans UMG à ce moment-là? Plutôt que dans Vivendi.
Pour ne pas souffrir la décote de holding.
Deuxième question, pourquoi est-ce que la décote de holding, elle se réduirait? Elle a fait qu'augmenter depuis la scission. Là, on est à quasiment 50% de décote de holding. Troisième chose, c'est quoi le catalyseur? Si vous voyez un catalyseur sur UMG, pas de souci, achetez directement UMG. Le problème, c'est que si vous voulez, le catalyseur qu'on attendait et qui s'est quand même pas mal éteint, c'était de savoir si on considérait que la famille Bolloré, enfin le groupe Bolloré, détenait, contrôlait Vivendi. Si tel était le cas, il aurait fallu lancer une OPA. Sauf que c'était la semaine dernière, ou il y a deux semaines, ma mémoire me fait défaut.
C'est en début de mois, je pense.
Voilà, la cour d'appel.
Ça fait l'objet d'un. Voilà,
la cour d'appel, dans un jugement, un arrêt, pardonnez-moi pour si le vocable juridique n'est pas assez rigoureux, est revenu sur une pressante position qu'elle avait. Entre temps, le Conseil constitutionnel avait cassé l'arrêt. Je vous passe les détails, mais en gros, on dit Bolloré ne contrôle pas
Vivendi.
Voilà, donc pas d'OPA. Et donc l'action avait chuté. Donc là, le seul catalyseur que vous avez. Il peut y avoir encore, il y a un appel en cours, ça peut, l'histoire n'est pas finie, mais il s'est en tout cas éteint. Et donc, à court terme, qu'est-ce que vous voyez pour investir dans Vivendi? Moi, je pose cette question, à part la valorisation, mais la valorisation, la décote de holding, ça fait des années que c'est comme ça, ça fait des années que ça ne bouge pas. Donc, c'est simplement, probablement que Vivendi, M. Bolloré est quand même quelqu'un qui a un certain sens de la finance.
Oui.
Il faut lui laisser, donc il y a peut-être des choses qu'on ignore et qui feront que Vivendi, en fait, il fallait investir dedans et dans un an, on se regardera, on dira, bah oui, on n'a pas été très malin de dire ça en plateau. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas très bien ce qui vous pousse à investir dans Vivendi.
Andrea Tueni, en un mot, la configuration du Vivendi, en plus on perd 20% aujourd'hui, donc c'est un petit peu compliqué de tirer des lignes, mais qu'est-ce que vous y voyez?
On est sur des plus bas, on a des moyennes mobiles qui sont très très éloignées du cours actuel, donc on est largement en dessous, on a une baisse qui a été quasi sans interruption, donc on est dans un marché baissier qui est quand même assez avancé, on voit que les tentatives de rebond, à chaque fois elles échouent. Même si on est en zone de survente aujourd'hui, ça signifie pas forcément qu'on va être sur un retournement durable de tendance. On peut avoir un léger rebond technique, mais pas forcément plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le marché des options, on voit des options qui ne paient pas forcément la volatilité actuelle. Elles se traitent à des niveaux de volatilité implicite qui sont assez bas par rapport à ce que le titre a réellement délivré en termes de mouvement. Et donc, soit ça veut dire que le marché anticipe un ralentissement marqué de la baisse, soit ça veut dire que les options sont structurellement bon marché dans le contexte actuel. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est ce qu'il faudra surveiller. Et bon, en termes de niveaux techniques, on a, si on veut jouer un rebond, on a des niveaux qui sont importants à franchir pour espérer 1,94, 2,06, 2,10 et 2,28. Je pense que c'est les niveaux les plus importants à surveiller dans le contexte d'un rebond.
On va terminer sur un secteur qui est un petit peu déçu au milieu des publications de résultats, celui de l'équipement sportif. On a vu Adidas qui avait publié des trimestriels qui n'étaient pas très bons. Et là, aujourd'hui, c'est au tour de Puma qui a signé une très mauvaise performance. Ils ont un boulevard. On a Nike, le grand rival, qui est en grande difficulté. On attend le réveil de Nike depuis des mois, voire des années. Adidas déçoit, Puma aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a un contexte général qui est quand même compliqué pour l'équipement sportif, etc. On a eu peut-être un petit effet Coupe du Monde qui aurait pu être intéressant. Non, Puma déçoit. Votre sentiment là-dessus, Maxime Lejuez?
Alors, Puma, c'est quand même très différent d'Adidas, parce que Adidas, finalement, les résultats, ils étaient pas si mal, puisqu'il y avait beaucoup de croissance, et au niveau de la marge, que ça ne s'est pas répercuté, c'est ce qu'attendait le marché. Pour Puma, c'est un peu... La boîte, elle est un peu victime finalement du phénomène où on attendait. C'est une boîte qui est en redressement et on attendait en fait avec la publication qui est un relèvement des guidance part du management. Ça n'a pas été fait. Ils ont juste confirmé en fait les guidance qui avaient déjà été données auparavant. Et ça a déçu le marché. Le titre perdait à peu près 7% ce matin. Ça s'est un petit peu amélioré quand même. Ça s'est redressé dans la journée. On devait être aux alentours de moins 2%.
On a fini à moins 2,5, hein, voilà. 27,50.
Ça s'est un petit peu corrigé. Après, le vrai sujet en fait chez Puma, c'est le retour de la croissance. On sait que le marché des équipementiers sportifs, c'est très concurrentiel. Il y a de plus en plus de nouvelles marques en plus qui vraiment se mettent sur le marché. Donc, c'est ça qui va être scruté par les investisseurs sur les prochains trimestres. Et justement, c'est ce qu'espérait le marché, c'est qu'il y ait un relèvement de la guidance, qu'on espérait de la croissance. On n'en a pas tellement plus que ce qui a été annoncé. Donc, c'est pour ça que le titre est sanctionné.
Un petit mot, Julien.
Mot, c'est juste de bien faire attention à la trajectoire de chaque équipementier. Nike, effectivement, est en redressement et le redressement, il patine.
Oui.
Puma est en redressement. Le redressement, il vient de commencer. Le chiffre d'affaires, en données comparables, je crois que c'est moins 9,4% ou moins 9,7%. Hein, au trimestre, hein, juste qu'on soit bien d'accord. Alors qu'Adidas va bien.
Adidas va très bien, et puis là, c'était un petit peu la fausse note.
C'est une fausse note, parce qu'il faut aussi voir que les attentes étaient élevées. Vous parlez de l'effet Coupe du Monde, Antoine, il a été totalement télégraphié, cet effet Coupe du Monde, puisque vous avez le patron d'Adidas, qui s'appelle Bjørn Gulden. Mmh. C'est un Norvégien qui, d'ailleurs, était ancien gardien de but de handball et de football professionnel. Il avait dit à Bloomberg, voilà ce que la Coupe du Monde va nous rapporter. Mmh. Donc, et ça, il l'avait dit, je crois, à la mi-juillet. On savait déjà. Mmh. En gros, les anticipations étaient élevées. Et c'est pour ça qu'en fait, un impair sur la marge, parce que vous avez raison, les croissances étaient meilleures que prévues, légèrement, très légèrement. Mmh. Ouais. Mais l'impair sur la marge suffit à faire mal, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'importantes dépenses de marketing. C'est ça qui a fait chuter là. Maintenant, ça a perdu combien, Adidas? Moins 14?
C'est ça.
Oui, ça a fait
géré, hein, sérieusement. Hein.
Ça va. C'est vrai que ça va gagner pas mal, hein, ces derniers mois, et ils en ont bien profité.
À m'exagérer, hein, si je peux me permettre.
Oui. Bah, comme beaucoup de mouvements qui ont eu lieu ces derniers jours hein, à la faveur de la publication des résultats. Mais au milieu de tout ça, Andrea, tiens, est-ce que Nike tient peut-être une petite fenêtre de tir pour remonter, pour avoir une configuration un petit peu meilleure avec ces quelques déceptions autour de Puma et d'Adidas?
En tout cas, la configuration technique telle qu'elle est aujourd'hui, elle est plutôt baissière hein, sur Nike. On a des moyennes, on est pareil, on est sous des moyennes mobiles, court, moyen, long terme. On est dans un schéma qui est quand même assez dégradé. On est proche des plus bas annuels. Donc on a quand même une structure de marché baissier. Donc ça paraît assez compliqué. On a vu là aussi, on en a parlé tout à l'heure sur Vivendi, mais on a des rebonds qui ont globalement été aussi vendus. Les derniers rebonds qu'on a essayé de regarder, ont été vendus. Le RSI lui pour le coup il est en zone neutre, donc ça veut dire qu'on a un flux qui est pas très très marqué. Donc on a un titre qui s'est dégradé, on va dire de façon assez progressive. On n'a pas vraiment de panique. Et on n'a pas non plus de capitulation technique, c'est peut-être le sujet le plus important. Mais malgré tout, ce qui peut paraître inquiétant et ce qui nous amène pas à être très très optimiste, c'est que cette situation dégradée assez progressive, ça marque qu'on n'a pas encore de signes clairs d'épuisement à la baisse. Et c'est ça qui peut paraître un peu plus inquiétant. Donc je pense que la prochaine zone à surveiller, c'est la zone des 40 dollars sur le titre. Je pense que c'est vraiment cette zone-là qu'il va falloir essayer de défendre.
Andrea Tchouni, Saxobank, merci d'avoir été avec nous. Maxime Lejeune des gestions, merci également, ainsi que Julien Marion de BFMBusiness.com. Restez à l'écoute de BFM Business. On revient dans quelques minutes avec le 18h Echo. On parlera du défi d'une nouvelle crise migratoire en Espagne. On restera avec vous, Maxime Lejeune, parce que vous nous parlerez du bilan des résultats trimestriels du CAC 40. Et puis, grosse actualité sportive avec quand même un bon gros plein de résistance, du remous, gros remous à la tête de la FIFA et des critiques qui n'en finissent pas contre Gianni Infantino et son envie de créer une entité purement commerciale au sein de la fédération. Ça fait beaucoup de remous. A tout de suite, on se retrouve dans quelques secondes sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.